Donc, on continue avec une MRC en action, la MRC de l'érable, avec entre autres Marie-Pierre Paquet. J'aimerais ça qu'on répète la question avant que notre invité puisse répondre.
Oui, bien, en fait, d'entrée de jeu, j'avais une question pour M. Gagné. Moi, tu sais, Lydia, avant d'être directrice aux opérations communication de la MRC, j'étais au positionnement au CLD de l'érable. J'ai fait une grande tournée de consultation pour savoir en quoi les gens étaient créatifs dans la région. Et le ciré, c'est un élément qui revenait souvent, qui était synonyme de créativité dans notre région, qui était un peu un porte-étendard là, de la fierté régionale.
Oui.
Donc, j'aurais le goût de demander à M. Gagné, pourquoi vous croyez que le ciré est mentionné en exemple en matière de créativité et d'innovation?
Oui, vous allez voir même que vous allez probablement devenir un exemple dans d'autres MRC, M. Gagné?
Effectivement, ça a été tout un défi. Je pense que c'est un défi qui pouvait paraître insurmontable pour plusieurs, mais la mise en commun des services, tant au niveau des services humains, que des services du matériel du service incendie en service incendie régionalisé, c'était l'inauguration là d'un nouveau service multifonctionnel qui nous permettait d'avoir un bureau d'enquête, un bureau de formation, un bureau de prévention que chacune des municipalités locales n'aurait jamais plus payé individuellement. Donc, on est arrivé avec une formule. Nos prédécesseurs ont travaillé fortement de ce côté-là. Faut lever leur chapeau, là. Mais ils ont travaillé fortement de ce côté-là. Et la MRC de l'érable, de par son développement et de par sa continuité dans ses services et l'amélioration au niveau de ses performances, en fait une MRC typique au Québec qui fait qu'on est appelé régulièrement pour avoir des conseils.
Oui, ben c'est ça. Est-ce qu'on a été les premiers à inventer ce système-là? Bon, pour, premièrement, que ça coûte moins cher pour les municipalités, mais en même temps, pour les contribuables, c'est moins de taxes aussi, faut le mentionner, là. Ça vaut aussi moins que ça.
Moins de taxes et plus de services. Les citoyens, on s'en rend compte quand il y a une grosse intervention, ils voient plusieurs véhicules d'incendie. À ce moment-là, ils se demandent souvent pourquoi? Pourquoi plusieurs camions incendies? C'est un peu comme un plombier qui arrive chez vous avec une fuite d'eau, mais pas de coffre à outils. Maintenant, on a un gros coffre à outils multifonctionnel qui nous permet d'intervenir partout sur le territoire rapidement, efficacement, puis avec des résultats confirmé présentement.
Bon, avant ça, comme par exemple, on fonctionnait comme les autres municipalités avant d'avoir le ciré?
Oui, chacune des entités est individuelle. Donc, chacun avait son
programme
d'acquisition individuelle. Des camions qui étaient, on s'en cachera pas, qui étaient désuets et qu'il fallait renouveler. Et lorsqu'on parle de renouveler un camion incendie, ça peut jouer entre 200 et 300 000 $ du véhicule. Si on achète individuellement, est-ce qu'on a une capacité de se le payer? Si on se regroupe, est-ce qu'on a une capacité financière, justement, d'aller en appel d'offres puis d'avoir des prix compétitifs? On l'a démontré présentement.
Oui, et on le démontre tellement bien, Marie-Pierre. C'est pour ça qu'on a des beaux camions d'incendie ici.
Ben oui, absolument. Puis c'est pour ça qu'on a des belles statistiques aussi. Puis M. Gagné est entre autres ici pour nous en parler. Le bilan 2011 est sorti. Puis je pense que vous avez des chiffres intéressants pour nous, M. Gagné.
Oui, donc au niveau des statistiques, celle qui m'intéresse le plus, laquelle que je vais le faire part à la population, c'est les pertes de matériel par habitant. Ça, là, c'est notre bilan de santé, qu'on pourrait dire. En 2006, on avait des pertes de 85,02 $ par habitant. Et en 2011, on a terminé avec 35,40 $ par habitant de pertes matérielles. C'est tout de même encourageant. Là.
Mm-hmm.
Donc, à ce moment-là, chacun des citoyens a un devoir qui lui est attribué, c'est de négocier avec ses firmes d'assurance, ses couvertures d'assurance pour aller chercher le meilleur tarif possible. On vient de démontrer qu'on a diminué nos pertes. Pourquoi on a diminué nos pertes? Il y a un concours de circonstances, c'est sûr. Il y a la formation, meilleur entraînement des pompiers, meilleur équipement, meilleur délai d'intervention, et tout ça fait qu'on arrive avec un résultat cette année à 35,40 $, qui est en bas de la moyenne provinciale.
C'est intéressant, on peut faire baisser nos assurances.
Effectivement,
avec ça,
c'est le mandat de chacun des citoyens de négocier avec ses firmes d'assurance.
Oui, voilà. Maintenant, est-ce qu'on y va avec le nombre de sorties? Vous avez sûrement des statistiques sur les alarmes automatiques, les feux de cheminée, tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on en parle aussi?
Oh que si, oui. J'ai, sans élaborer sur tous les types de nature du service incendie, parce que le service incendie n'intervient pas seulement que sur des incendies, des feux. Mm. On pense par exemple à l'accident d'autocar qu'il y a eu dernièrement, l'écrasement d'hélicoptères, le déraillement à Villeroy. Donc, on est appelé sur des inondations. Donc, c'est vraiment un service multifonctionnel. Mais quand on passe aux interventions, un point où j'aimerais que la population porte une attention particulière, les alarmes automatiques d'incendie qui sont reliées à une centrale d'alarme. Présentement, c'est 28 % de nos interventions annuelles. Donc, en 2011, ça a été 45 interventions. Ça, c'est des coûts.
Oui, ben des oui, coûts importants. Chaque fois, oui.
Pourquoi? Mauvais entretien, pas de vérification, méconnaissance d'utilisation de l'appareil. Je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Les feux de cheminée. Feux de cheminée aussi, 11 %. Pourtant, on a un règlement là-dessus. Un règlement qui oblige la population à ramener leur cheminée. Il y a de la négligence là-dessus. On a 11 % de nos interventions pour des feux de cheminée. Et lorsqu'on arrive sur les lieux, on se rend compte que la cheminée est vraiment encrassée, vraiment pleine de kérosote. Donc, c'est un mauvais ramonage. Donc, on recommande au moins un ramonage annuel. Puis moi, personnellement, je recommande deux ramonages. Un à l'automne, un durant la période des fêtes. On a le temps durant le temps des fêtes? Profitons-en. Ramonons. Ça va éviter ces sorties-là. Diminuer les coûts d'opération de service. Puis en même temps, ben, le budget annuel d'opération de service.
OK. Et le ramonage, il faut appeler son ramoneur, parce que dans certaines municipalités, c'est comme à chaque année, à telle date, le ramoneur passe et fait du porte-à-porte. Ça, ça n'existe pas partout, ce système-là.
Ça n'existe pas partout, et vérifier par la suite si le ramonage a été bien fait. Il peut y avoir un ramonage de cheminée, mais les tuyaux de fumée n'ont pas été ramonés, n'ont pas été nettoyés. Ça peut amener des problèmes, là.
OK. Maintenant, si on va avoir le temps de jaser de tout, moi, j'aimerais ça qu'on parle de l'intervention. Même Marie-Pierre, on a jasé à un moment donné avant de faire venir M. Gagné. C'est de parler de l'intervention, justement, quand l'autobus a pris le champ. Bon, c'était le 3 mars dernier, c'est bien ça, M. Gagné. Alors, Marie-Pierre, on s'est dit, faut parler du service rapide et puis comment les gens ont été tout de suite pris en main par notre service.
Oui, effectivement, parce que je pense que les pompiers, puis M. Gagné pourra me le confirmer, travaille souvent dans l'ombre, dans des situations comme ça. Comme là, les médias ont beaucoup parlé de l'intervention rapide des médecins, du personnel infirmier, mais on a peu parlé du travail de coordination qui a été fait par les services d'urgence, dont les pompiers
sur le terrain. Finalement, oui. Vous étiez les premiers répondants, là, c'est ça?
Oui, il y avait un travail important à faire, un travail colossal en arrivant sur les lieux. Il y a l'aspect de la vie humaine, mais pour protéger la vie humaine, il faut penser, par exemple, il y avait un système d'alimentation électrique d'Hydro-Québec qui était affecté, qui avait été cassé. Donc, il faut faire du délestage à distance. Donc, il fallait penser faire le délestage pour éviter qu'il y ait électrocution en plus au niveau des patients à l'intérieur de l'autobus. Faire venir un autobus pour héberger les patients qui étaient plus ou moins blessés à l'intérieur pour les garder à la chaleur. Parce que c'est une journée qui était venteuse,
oui,
qui était
frais.
Froide. Supporter les services ambulanciers dans le transport des victimes. Établir, par exemple, pour être capable de transporter les victimes de l'autobus aux ambulances, on a fait un pont au-dessus du fossé pour être capable de passer au lieu de caler dans le fond du fossé puis de remonter. Puis les effectifs auraient été brûlés, auraient été épuisés dans le temps de le dire, là. Il y a tellement de travail. La protection avec des lignes, ce qu'on appelle des lignes chargées, donc des lignes d'incendie pour éviter qu'il y ait un début d'incendie puis que les victimes amassées à l'intérieur de l'autobus soient blessées plus gravement. Là.
Oui, parce qu'on sait qu'il y a eu deux décès aussi
suite
à cet accident-là. Là.
Donc, il y a tellement de travail, il y a tellement de coordination à faire. Je lève mon chapeau au chef aux opérations en devoir à ce moment-là qui a agi promptement puis qui a pris les bonnes décisions dans les premières secondes. Ça a été un travail exemplaire de la part de la caserne 45 de la paroisse de Plessisville.
Oui, et votre présence, ça empêche l'état de choc, la panique aussi des passagers. Hein, ça aurait pu arriver. Là.
Ça rassure beaucoup.
Ben oui.
Oui, de voir autant de personnes arriver sur place qui puissent établir un contact humain avec eux, les amener graduellement, lui fournir des couvertures chaudes. Ça rassure ces gens-là. Ils sentent qu'ils ne sont pas démunis, là. On ne voit pas peut-être on voit pas 50 ambulances arriver, mais pendant que les ambulances s'en viennent, ils ont été prises en charge par le service incendie.
Non.
Ça, c'est bien ça.
C'est ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Service des incendies, les ambulanciers, après ça, c'est destination, le centre hospitalier.
Le centre
c'est
hospitalier.
C'est comme ça que ça fonctionne. Okay.
J'étais en contact continuel avec la direction du centre hospitalier pour lui donner l'état des effectifs qu'on avait, l'état des victimes. Le nombre de victimes qui allaient être acheminées en direction de l'hôtel Dieu d'Arthabasca. Donc, on avait un contact. Il y avait une communication cette journée-là. On dit souvent que la communication, c'est le nerf de la guerre. Mais on a démontré, effectivement, que cette journée-là, on était prêts.
Voilà. Même pour les médias, hein, parce qu'on posait des questions et puis, bon, les gens nous répondaient aussi, parce qu'habituellement, on cache un peu l'information. Mais là, tout était clair. On pouvait suivre cette tragédie-là, que ce soit sur les ondes ou un peu partout dans les médias. Alors là, on va s'arrêter, Marie-Pierre, et ainsi que M. Mario Gagné, puis on en est déjà rendu à la conclusion. C'est certain qu'on va en revenir avec le CIRE, hein?
Oui, oui, on a des rappels importants à faire avant de quitter.
À tout de suite.